création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. En ce moment, à la Maison de la Radio, se tient jusqu'au 29 juillet 2017 une exposition Expérience. Par groupe de 4 personnes, comme les Beatles, et munis de casques audio, les visiteurs redécouvrent l'univers visuel et sonore de Sgt Pepper's lors d'un parcours qui dure le temps de l'album. Toute une génération en France a reçu le dit album dans sa corbeille de naissance d'adolescent. Mais que peut faire Sgt Pepper aujourd'hui encore? Quels effets produit-il sur la création contemporaine, son imaginaire, son esthétique? Ce sont les questions que Jean-Michel Espitalier a eues en tête pour construire ce documentaire. Certaines réponses seront en musique. Sgt Pepper, par Jean-Michel Espitalier et Nathalie Salle, création On Air.
Déjà au début, je pensais que Sgt Pepper, ça s'écrivait paper comme du papier.
On est toujours dans la redécouverte, on écoute toujours quelque chose.
Ils étaient au maximum de leur grâce et tout ça.
Etc.
Moi, le vrai disque psychédélique, celui que j'ai découvert en premier, c'est celui des Rolling Stones. C'est-à-dire Satellite Majesty's Request.
Le disque non mythique à mes yeux des Beatles.
C'est vraiment, c'est ma jeunesse, c'est l'adolescence, c'est la découverte de l'amour.
Cette force d'invention liée à un médium.
OEM, objet esthétiquement modifié.
C'est vraiment comme des grands frères, quoi.
Ça fait partie de mes incunables, mes disques de show.
Il y a des disques comme ça qui décident ou qui ouvrent des voies, les chemins.
Un tel niveau d'exigence.
C'est un énorme effet. Il est vraiment presque parfait cet album, quoi.
Plus rien de rock'n'roll, hein, c'était vraiment de la musique classique, on entendait hautbois, des grands orchestres, tout ce que vous voulez.
C'était un disque qui me donnait envie de me droguer.
Sgt Pepper, suite.
Il y a tout un monde là-dedans.
Plus doux, plus doux,
plus sale,
plus sale,
plus violent,
plus violent,
plus paisible,
plus paisible,
plus coloré,
plus sexy,
plus sexy,
plus cruel,
cruel,
plus
aimant
que
le monde où je vis.
Il y a des histoires,
de la géographie,
de la poésie
et mille autres choses que j'aurais dû
apprendre à l'école,
même de la musique.
Nick Hornby,
Haute Fidélité.
Barbeau, journaliste et chanteur. Donc Sgt Pepper's, oui, alors j'ai un souvenir très très précis de Sgt Pepper's, parce qu'en fait ça m'évoque curieusement la banque, moi, Sgt Pepper's, parce que à l'époque, donc en juin 67, j'avais un copain de classe dont le papa était directeur de la Banque de France de Fontainebleau, et il se trouve que c'est dans la chambre de mon copain, qui habitait au-dessus de la banque, que j'ai découvert Sgt Pepper's. Ça fait qu'à chaque fois que je passe devant la Banque de France de Fontainebleau, je pense aux Beatles. C'était un album mono, parce qu'il est sorti en mono, un vinyle mono, que j'ai, parce que je l'ai racheté à mon copain qui a voulu acheter le stéréo juste après. Moi, j'ai gardé le mono et le stéréo, et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes mixages. Il y a des morceaux qui m'ont tout de suite sauté à la tête, si on peut dire. C'est évidemment A Day in a Life, qui est pour moi le plus grand chef-d'œuvre des Beatles. Et des choses comme Lovely Rita ou Lucy in the Sky with Diamonds, c'est surtout She's Living On.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing the bedroom door. Leaving the note that she hoped would say more, she goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key. Stepping outside, she's free.
Mais c'était très très surprenant parce que moi j'étais resté dans les Beatles de, tu vois, de Rubber Soul, Revolver, donc plutôt de la pop mélodique formidable mais assez traditionnelle. Et là brusquement ça se barrait dans tous les sens. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé par la suite, c'est que cet album, outre le fait que c'est un album révolutionnaire qui en plus n'a pas vieilli, moi je trouve, par rapport aux Beatles, c'est le début de la désintégration du groupe. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière fois que sur une pochette de disque, ils sont tous les quatre ensemble, avec la même coiffure, avec le même look, habillés de la même façon, et les uns à côté des autres. Après, c'est terminé. Ils sont tous moustachus, je crois, sur cette pochette intérieure. C'est la seule fois, parce qu'après, Paul n'avait plus de moustache. Bon, parce qu'à Abbey Road, ils se tournent le dos, ils sont en file indienne. Et ils sont absolument plus habillés pareil. Les Beatles, jusqu'à Sgt. Pepper, ont toujours été identiques. Ils ont toujours fait partie d'une entité. À partir de Sgt. Pepper, c'est plus John, Paul, George et Ringo, c'est John et Paul et George et Ringo. Mais c'est la première fois aussi, je crois, dans l'histoire du rock, de la pop musique, que les morceaux étaient enchaînés. Qu'il n'y avait pas de blanc entre chaque chanson. Ce qui fait que je crois que c'est quand même le disque que j'ai écouté le plus. Pas seulement des Beatles, de toute la discographie pop de l'époque. Et c'est aussi pour moi le premier album où on s'est aperçu qu'une pochette de disque, c'était pas seulement un emballage, c'était donc en plus d'un album musicalement exceptionnel et inédit et incontournable, c'était en plus un bel objet d'art. Et au niveau sonore et technique, ils ont inventé énormément de choses. Les bandes à l'envers, les bruitages. Ils ralentissaient les bandes à la main pour changer le son, etc. Alors ça, c'est des choses qui, après, m'ont un peu influencé pour essayer d'enregistrer des choses un petit peu différentes et barrées. Quoi.
John ? Dans le fond, ce n'était rien de plus qu'un album intitulé Sgt. Pepper, dont les morceaux étaient reliés les uns aux autres. C'était une très belle idée à l'époque, mais aujourd'hui ça ne veut rien dire. Il y a des passages de Lucy in the Sky que je n'aime pas. Une partie de la couleur sonore de Mr. Kite ne colle pas. J'aime A Day in the Life, mais ça reste quand même moitié moins bien que ce que je croyais quand on était en train de le faire. J'imagine qu'on aurait pu travailler plus dessus, mais je ne voulais pas m'emmerder plus longtemps. Sgt. Pepper est une belle chanson. Getting Better est une belle chanson aussi. Et le Within Without You de George est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre musicalement, à part le concept des morceaux qui se mélangent les uns aux autres ?
Camille Laurence, je suis écrivaine. Sgt. Pepper, c'est un souvenir très précis parce que
J'avais 14 ans, presque 15, et c'était l'album fétiche de mon premier amour. Et donc, les premières fois où je suis allée chez lui, j'ai vu cette pochette, déjà très particulière, enfin, je me souviens très bien, où je cherchais à reconnaître tous les personnages qui sont sur cette pochette. Il y a Marx, il y a Jung, il y a tout un tas de gens qu'on pouvait repérer. Et puis, c'est la découverte des Beatles, mais aussi des Rolling Stones, de Grateful Dead, des Doors, enfin... C'est l'adolescence, c'est la découverte de l'amour. Je me souviens notamment d'une chanson de Sgt. Pepper là, avec ce refrain que je prenais évidemment pour moi. J'avais l'impression que c'était mon copain qui me disait ça. « It's getting always better since you've been mine. » Donc, bon, et alors, depuis, j'ai bien réécouté la chanson. Et en arrière-plan, il y a Lennon qui dit quelque chose comme... It can't be worse, ça ne peut pas être pire. Donc, il y avait une sorte de contrepoint que je n'avais pas entendu à l'époque. Mais voilà, donc pour moi, c'est une découverte complète. Et je me souviens que mon copain, qui s'appelait Philippe d'ailleurs, c'est le prénom que j'ai donné ensuite à mon premier enfant, avait une passion, c'était d'aller chez le disquaire et on passait des heures à écouter les morceaux, à fouiller dans les bacs. C'était une occupation à plein temps, en fait. Alors, je dois dire que Sgt. Pepper, c'est quand même aussi, pour moi, en sérieuse rivalité très vite, parce que c'est exactement à la même époque que j'ai découvert les Doors. Et il se trouve que je suis allée à l'enterrement de Jim Morrison, j'avais 14 ans, hein, au cimetière du Père Lachaise, et maintenant, je suis tout près, là, et... Je vais voir sa tombe, c'était pour moi un grand moment. Donc j'associe un peu les deux dans mon souvenir. Bon, sauf que bon, Jim Morrison, c'est resté pour moi... voilà, c'est mon idole par sa voix, par son destin. Plus que John Lennon ou d'autres des Beatles.
Olivier Melano, musicien.
Thank you.
Ringo.
Tout ce cirque à propos de Lucy in the Sky with Diamonds, c'était absolument démentiel. J'étais là avec John quand Julian est arrivé avec une petite peinture d'enfant, une petite peinture extravagante. Et John, en bon père, a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Et Julian lui a répondu « Bah, c'est Lucy dans le ciel avec des diamants. »
Jean Rouzeau, je suis très vieux et je fais des chroniques sur Radio Nova, ou du moins ce qu'il en reste. Là, si j'ai bien compris, il faut que je me souvienne de cette lointaine période où je passais mon bac, où est sorti Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, le disque non mythique à mes yeux des Beatles. Pour ceux qui le connaissent, d'ailleurs je pourrais chantonner chaque petite chanson, si vous dire à quel point je le connais. Il y a eu plusieurs choses bizarres concernant ce disque, en dehors du fait que les Beatles se sont habillés en majorette, ce qui est quand même assez bizarre de leur part, je ne m'y attendais pas, et surtout que ce n'est pas du tout un disque de rock. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à un stade de tel succès, les quatre fabuleux, qu'ils ne savaient même plus qui ils étaient, quoi. C'était une explosion totale, et que George Martin, le cinquième Beatles, le super arrangeur, c'est lui qui a fait ce disque, c'est lui qui s'en est donné à cœur joie. Et d'ailleurs, ils ont commencé à faire beaucoup de dubbing, d'emprunts. En fait, ce disque est pour moi un espèce de truc rigolo, sympathique, comme toujours avec les Beatles, mais très boursouflé. Tout d'un coup, là, ils se perdent dans cette grosse soupe qu'on va appeler le prog rock, c'est-à-dire une catastrophe. Même les Who vont faire Tommy, c'est vous dire la catastrophe. Et surtout, je trouve le pire, c'est qu'il y a une espèce de trafic dans les chansons. C'est un grand fond commun de chansons, de comptines anglaises. Ils s'inspirent de tout, des cirques, des machins, des trucs. C'était vraiment une dérive à ce moment-là du rock'n'roll. Et ça devenait vraiment un peu ridicule tout ça. On était loin des groupes très secs du début que j'aimais, les Kings, les Pretty Things, ou surtout les Small Faces, enfin vraiment les vrais mecs, les Mods, quoi, à mon avis. Tout d'un coup, ça devient des stars. Ils ne peuvent plus chanter hein, sur scène. Les gens hurlent, donc ils disent on ne peut plus chanter sur scène, on va faire un album qui ne sera pas reproductible sur scène. Hein, c'est le cas de cet album qui est injouable. Il y a d'effets de trafic. Donc voilà, ce disque est fait pour impressionner les gens, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Si on prend le collage, moi qui ai fait plein de collages, bah il est assez stupide. Ils avaient mis Jésus, ils avaient mis Hitler, ça. On leur a dit enlever, ils ont tout enlevé. Hein, même je sais plus qui, même Krishna. Enfin, ils ont enlevé tout ce qu'on leur demandait. Ils ont fait que ce qu'on leur demandait. Ils ont été propres comme on leur demandait, comme toujours. C'est une grosse machine, ce truc-là. C'est comme un peu une opérette. Voilà, c'est tout ça qui me gêne dans ce disque. Mais comme ma génération a été d'une naïveté absolument fantastique, enfin, vraiment, on a bouffé tout ce qu'on nous a donné. Pas moi, hein. Mais on peut dire que cette génération a bouffé toutes les boîtes de conserve. Tout ce qu'on lui a fourgué, Dylan, le bluffeur, n'importe quoi. Ils aimaient tout, Peter, Paul and Mary, Folk, les Beatles. Heureusement, il y aura les Décadents qui me font beaucoup plus rire, le glam rock. Voilà ce qu'on peut dire sur cet album qui n'est ni charnière, ni historique, ni rock'n'roll, ni vraiment des Beatles, qui est un fond commun anglais charmant. Il faudra quand même attendre les punks pour respirer.
Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline.
Jean-Christophe Menu, dessinateur. Moi, je découvre les Beatles quand je suis au collège, donc au milieu des années 70. Et c'est un gros choc. C'est pour moi, c'est le premier groupe que je découvre qui sort un peu du hit parade. Ça me fait un effet incroyable parce que je me rends compte que toutes les chansons sont mieux que celles qui passent au hit parade d'Europe 1. Donc c'est un gros choc. Et donc est arrivée la découverte de Sgt Pepper. Je ne sais plus trop dans quel ordre ça s'est passé, mais la grosse surprise, ça a été la reprise du morceau intitulé Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. C'est la première reprise que j'ai découvre, je crois, dans l'histoire de la musique. Et tout d'un coup, revient à la fin de l'album Sgt Pepper, en plus rapide, plus électrique, plus court, une espèce de coup de poing dans la figure, comme ça. Donc une variation, une déclinaison. Donc c'est la première que je découvre, et ça me fait un énorme effet. Il n'y a aucun morceau qui me gêne sur Sgt Pepper. Enfin, il n'y a pas un Michel ou un Obladi Oblada pour venir me gâcher le plaisir, quoi, ou un Yellow Submarine, parce que quand j'écoute Revolver, je suis obligé de me lever pour interrompre Yellow Submarine, tellement ça m'écorche les oreilles. Obladi Oblada, c'est limite. Mais là, il n'y a rien. Même le morceau de Harrison, qui est quand même un peu pénible, passe finalement, si on se remet dans l'époque, c'est quand même très nouveau pour l'époque, ce sitar, mais il est vraiment presque parfait cet album, quoi. Un peu comme Abbey Road aussi, mais c'est ce que je préfère dans les Beatles de la fin, c'est le mélange de pop et d'expérimental, car en fait, ça va dans tous les sens, quoi, les Beatles, et ça commence Sgt. Pepper, ça s'amplifie avec l'album blanc, ça finit avec Abbey Road, mais c'est évidemment, c'est pas un hasard s'ils sont toujours dans l'histoire de la musique 50 ans plus tard. Ce qui me fascinait dans les Beatles, c'était le cheminement qu'ils avaient fait en si peu d'années, en fait. C'est-à-dire partir de Love Me Do pour arriver à Abbey Road en l'espace de 8 ans. Et ce qui est fascinant aussi dans Sgt. Pepper, c'est que c'est le premier disque à faire figurer ce qu'on appelle un log groove, c'est-à-dire le dernier sillon du disque vinyle pressé avec du son, c'est-à-dire avec un court morceau qui se répète à l'infini. J'étais fasciné par ça et c'est grâce à ça que j'ai créé ce livre qui s'appelle Log Groove Comics, qui prend base sur cette fantaisie vinylique pour explorer un peu différents domaines musicaux en bande dessinée. Et donc ce sillon existe sur tous les disques, qui permet au diamant de pas aller s'écraser au milieu du disque sur le papier, mais en fait c'est possible de l'enregistrer. Et sur ces Sgt. Pepper des Beatles, donc il y a un petit morceau de 1,8 secondes qui apparaît sur la première édition ou bien les premières éditions anglaises du 33 tours, et j'avais eu la chance d'acheter en occasion un des exemplaires anglais qui possédait le log groove. Alors il faut imaginer la surprise quand le bras de la platine arrive à la fin du disque et tout d'un coup on découvre un morceau qui est infini, qui ne s'arrêtera jamais. Et ce que j'aime bien dans les log grooves, c'est que on peut les laisser plusieurs heures si on veut. Et il y a un effet hypnotique qui se passe parce que on finit par entendre des choses très différentes, évidemment, selon qu'on évolue dans la pièce ou selon le temps qui passe. Et donc j'ai commencé à recenser les log grooves sur les différents vinyles que j'avais. Il y en a pas mal. Mais le premier de l'histoire a donc 50 ans, c'est celui de Sgt. Pepper des Beatles.
Paul.
Ça n'est à coup sûr pas passé inaperçu. C'est sorti un vendredi, et le dimanche, Jimi Hendrix ouvrait avec Sgt. Pepper quand on est allé le voir au Savile Theatre. Pour moi, ça a été le plus beau des hommages. J'étais un grand fan de Jimi, et il n'avait eu que 2 jours pour l'apprendre.
Barbara Carlotti, auteure, compositrice, interprète. Mes parents se sont rencontrés à Londres et donc ils ont beaucoup écouté les Beatles et eux ils étaient plutôt fans de l'album blanc. Et après moi donc Sgt. Pepper j'ai découvert plus tard en fait. Je crois que ce qui m'a moins influencé et ce que j'aime particulièrement c'est la variété en fait et de timbres et de propositions et de chansons. Et aussi ce truc assez fou. Enfin, il y a eu des albums concept et tout ça, mais vraiment l'idée de dire on arrive à un concert dans un album, ça n'existe pas en fait. Et ça me plaisait beaucoup, les applaudissements, les rires, voilà, la mise en scène en fait de Sgt. Pepper. Je pense que c'est ce qui me plaît et aussi m'a un peu influencé sur l'idée de mettre en scène la musique, pas seulement de la jouer, mais de la mettre en scène. Et voilà, après, il y a le sitar, il y a le tempura, donc il y a les influences de musique indienne. Il y a aussi ce morceau « She's Leaving Home » où il y a vraiment la harpe au début et c'est vraiment complètement classique. Il y a les cuivres baroques qui, je pense, donnent une... vraiment une couleur très particulière. Et moi, ça m'a, je pense que ça m'a influencé. Ça fait très longtemps que j'avais envie de mettre des cuivres sur mes albums. Là, j'ai osé cette année le faire et écrire mes arrangements. Parce que, mais vraiment, je pense que j'avais Penny Lane en tête. Alors, Penny Lane, elle était pas sur Sgt. Pepper, mais elle avait été écrite pour. Et bon, voilà. Et donc, je pense que ça, c'est des choses qui nous imprègnent, en fait, sans qu'on y pense vraiment. C'est une musique presque, je sais pas, en fait, on a infusé dedans, quoi. Et puis, tous les animaux. Les animaux, donc l'ordre animal reconvoqué. Je crois que c'est John Lennon qui avait eu cette idée, le coq sur Good Morning. Enfin, toute cette exubérance de son, quoi, qui est enfin un album hyper riche. Et moi, c'est vrai que sur mes albums, je me suis toujours dit, je veux jamais faire un morceau qui se ressemble. Donc c'est toute cette vivacité, en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est un album presque enfantin, tellement il y a d'idées, tellement on navigue dans les choses, tellement ouais, on s'amuse en fait aussi avec les sons. Mais voilà, il y a des gimmicks en fait qui sont très très forts dans l'album, qui restent en fait et qu'on a envie de refaire quand on est musicien, je pense. Quand on fait un album, voilà, des fins comme ça, des fins de chansons hyper fortes. Within Without You, là, le morceau vraiment indien, quoi, avec vraiment une mélodie très indienne aussi. Ça, c'était impressionnant. Je pense que je me serais pas tellement intéressée à la musique indienne s'il y avait pas eu les Beatles. Je pense qu'ils ont quand même apporté beaucoup ça dans la musique occidentale, quoi, cette curiosité pour d'autres, enfin, en tout cas pour l'Inde et pour la musique indienne, ça c'est sûr. Et vraiment dans cet album, c'est très présent, quoi. Même le sitar, il est sur d'autres morceaux. Moi, j'en avais mis sur Nuit sans lune, mais je pense que ça vient vraiment de ça. J'avais été en Inde aussi, un peu pour ça, aussi un peu pour d'autres raisons, pour le salon de musique. Mais je pense que ça vient de là, et on était en studio en Inde, et on avait fait plein d'expérimentations, et finalement, on a gardé un peu comme font les Beatles, c'est-à-dire c'est des textures, c'est des nappes, c'est des harmoniques, en fait, qui vibrent à l'intérieur de la musique, mais c'est jamais quand même un exercice de style. Bon, à part peut-être ce morceau.
The day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief, quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
Jean-Christophe Normand, artiste. Ce disque, ça m'a aidé à m'affranchir de certaines choses et je me suis rendu compte à quel point j'aimais la pop, quoi. Et ça allait être comme ça pour, d'une certaine façon, pour toujours, quoi. À la maison, il y avait un peu, mon frère écoutait les Rolling Stones et moi, c'était plus les Beatles. Et aujourd'hui, je pourrais faire une liste comme ça de noms, d'héritiers ou de gens qui sont arrivés comme ça après eux ou qui sont en correspondance avec eux. Et notamment, là, dans ce disque-là, quand je réécoute par exemple le morceau Fixing a Hole, je pense immédiatement à un des disques du groupe américain Love et de leur album Forever Changes. Je pense au Prefab Sprout, à Paddy McAloon, le leader, mais même à des musiques comme ça, très, où moi j'y vois encore des suites ou des continuités dans l'album de Frank Ocean, Blonde, comme ça, où il y a, voilà.
George,
ça devenait difficile pour moi parce que je n'étais pas réellement dedans. Jusque-là, on avait plus enregistré comme un groupe. On apprenait les chansons et on les jouait, même si on commençait à faire des re-re et si on en avait fait beaucoup sur Revolver. Sgt. Pepper a été le seul album où les choses se sont passées un peu différemment. Bien souvent, ça se terminait avec Paul seul au piano et Ringo gardant le tempo. C'était devenu un processus d'assemblage, uniquement de petites séquences et puis les re-re. Et je trouvais ça un peu lassant et ennuyeux. Il y a eu quelques moments que j'ai appréciés, mais globalement, je n'ai pas beaucoup aimé faire cet album. Je revenais d'Inde et mon cœur était resté là-bas. Et ça m'intéressait de moins en moins d'être Fab.
Peter Sandy, j'enseigne la philosophie à l'université de Paris-Nanterre. L'album est sorti un an après ma naissance. En fait, c'était pas une musique qui circulait beaucoup à la maison. Mes parents écoutaient pas ça du tout. C'était plutôt de la musique classique qu'on entendait. Je l'ai reçu comme un objet quand même qui était très particulier. Il y avait la pochette qui intriguait. Et puis surtout cette composition qui, même si elle n'est pas portée par une thématique explicite, c'est quand même, comme on dirait dans la musique classique allemande, c'est Durchkomponiert, c'est-à-dire c'est composé de part en part, enfin composé du début à la fin. Et d'ailleurs, si je pense à la musique allemande, c'est sans doute pas un hasard. Je veux dire, la musique allemande savante, qu'elle soit classique ou contemporaine, c'est sans doute pas un hasard, parce que le seul compositeur classique quand même qui figure parmi tous les visages qui composent la pochette, c'est Karlheinz Stockhausen, qui est un musicien qui à l'époque a déjà fait pas mal de musique électronique. Et bon, on peut spéculer sur le pourquoi de cette effigie, mais en tout cas il est là, voilà. À l'époque, disons les premières fois où je l'ai écouté, j'étais pas curieux. Enfin, je me souviens pas que j'étais préparé à apprécier quand même l'immense nouveauté de cet album. C'est plus tard, en fait, quand j'ai commencé à enseigner en musicologie. J'enseignais un cours à l'université de Strasbourg, c'était mon premier poste. Et cet album était un moment important dans le cours que je faisais sur l'histoire des instruments de musique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'organologie. Alors j'expliquais toujours à mes étudiants qu'en fait, avec cet album des Beatles, probablement d'ailleurs déjà avec Revolver, le disque en tant que tel devenait un instrument de musique. C'est-à-dire que ce n'était pas juste une surface d'inscription, de reproduction, mais ça devenait vraiment un instrument de musique à part entière. Autrement dit, on composait avec le disque et pour le disque, et le disque n'était pas seulement un moyen de reproduction, c'était vraiment un moyen de production. Donc il y a mille choses sur cet album, bon, c'est très connu, mais mille choses qui sont faites pour le disque et qui sont spécifiques au disque, qui à l'époque étaient impossibles à reproduire en concert et qui sont vraiment pensées pour ce médium, voilà. Et je l'ai encore réécouté peu de temps avant qu'on en parle là maintenant, en découvrant des nouvelles choses qui me frappent, certaines que je connaissais mais que finalement dont j'avais pas bien mesuré la portée, comme par exemple cette fameuse dernière plage, A Day in the Life, avec bon, c'est très connu, cette espèce de spirale d'un orchestre symphonique qui est une espèce d'empilement de sons qui monte comme ça en spirale une première fois, et puis tout d'un coup il y a un changement total d'ambiance et de tempo, on se retrouve presque dans une sorte de moment de course un peu comme ça, un peu animé, puis ensuite on réentend la même spirale et là il y a cette fameuse fin avec l'accord de piano plaqué qui résonne un temps infini, donc un temps qui est proprement le temps du disque. Et puis ensuite, c'est tous ces bruits de voix, de chantonnement qui ont été remixés et qui tournent en boucle pendant que donc le micro-sillon était censé défiler jusqu'à ce que l'aiguille arrive au trou du milieu, voilà. Dans cette espèce de trou noir, là où la musique s'absorbe dans le rien. Et ça, je trouve que c'est quand même une immense invention, une immense réussite, qui est une manière d'écrire vraiment pour le disque.
Thank you. Bertrand Leclerc, écrivain, critique littéraire, et j'avais 6 ans en 1967. Donc 6 ans en 67, autant dire que dans la province française, moi j'ai pas beaucoup entendu parler des Beatles cette année-là, je crois pas. Mais quelques années plus tard, dans les débuts des années 70, et il ne reste pas moins que pour moi, le vrai disque psychédélique, celui que j'ai découvert en premier, c'est celui des Rolling Stones, c'est-à-dire Satanic Majesty's Request, qui a largement précédé dans mon histoire personnelle celui des Beatles. À l'époque, on n'écoutait pas beaucoup de musique anglo-saxonne, en fait. Moi, j'ai grandi à Calais, il y en avait assez peu. J'ai pas tellement souvenir d'avoir beaucoup partagé ça avec des copains de classe, des copains d'école. J'écoutais beaucoup seul, gavé de Rolling Stones et de leur légende qui me convenait très bien, qui a tourné justement en 67 avec la prison, avec l'arrestation à laquelle George Harrison avait miraculeusement échappé, puisque les policiers avaient attendu qu'il soit reparti de chez Keith Richards pour intervenir. Moi, j'ai totalement plongé pendant toutes ces années-là dans cette histoire-là. C'est à côté Rolling Stones contre Beatles, côté mauvais garçon contre gentil garçon, qui est, à la distance du temps, paraît évidemment totalement absurde. Mais en même temps, elle est passionnante parce que ce qui est marrant, c'est de constater à quel point cette légende qui a été construite, qui est en fait une espèce de début de marketing dans la pop music début des années 60, où tout d'un coup, les Rolling Stones, comme ça, on les présente comme les méchants, les mauvais garçons dans leur concurrence avec les Beatles, et en fait est devenu d'une certaine manière réel justement à ce moment-là, c'est-à-dire que l'arrestation, c'est eux qui se font arrêter, ce sont pas les Beatles, et on peut penser que le tournant des Stones après, à partir de 69, Street Fighting Man, etc., c'est justement une conséquence de cette arrestation. Et déjà dans le fameux album psychédélique, on peut entendre des portes de prison, on n'est pas obligé de l'entendre, mais en tout cas on peut l'entendre. C'est un album que les Stones eux-mêmes ont un peu tendance à dévaloriser. Pour moi, ça reste un très grand album. Et Sgt. Pepper n'est pas du tout comparable à cet album qui, à la limite, même préfigure un mouvement punk par l'utilisation d'instruments qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils connaissent pas. Il y a cette volonté de jouer du piano avec un seul doigt, par exemple. Toutes ces mécaniques qui se sont mises en place et en même temps, de fait, historiquement, il faut bien constater que c'est 6 mois après. Mais je parle pas beaucoup des Beatles, je dois reconnaître.
Jean-Marc Montera, guitariste, artiste associé au GMEM, groupe de musique expérimentale de Marseille. Thank you.
Moi, je suis Gilles Kaplan et je suis chanteuse. Mais auteur aussi, mais surtout chanteuse. C'est un disque que j'ai dû découvrir en cinquième. Je connais les Beatles parce que j'ai acheté une compilation, un double album des Beatles. Et je découvre le premier album studio, pour moi, qui correspond à mon premier album studio que je connais des Beatles, c'est Sgt. Pepper. Alors déjà, la pochette, premier truc, double album, enfin double album, double pochette plutôt, pas double album, mais double pochette. Et avec tout ce collage de personnalités, et j'ai passé, je crois, des heures à regarder qui il y avait. Je me souviens qu'il y avait Marilyn Monroe. Alors ça, Marilyn Monroe, c'était un peu mon idole. Et je mets le disque. À l'époque, j'avais un petit électrophone Radiola rouge qui était un peu pourri, quoi. Et je mets le disque et le premier morceau, j'adore instantanément. Enfin, ce disque m'a complètement hanté pendant des années, quoi. Des années, je m'en suis jamais lassée. Même encore aujourd'hui, je le réécoute et j'ai toujours le même... Alors, ce qui est marrant, c'est que les morceaux préférés changent selon les mois, selon les périodes. Parce qu'à l'époque, on n'a pas beaucoup de disques. C'est plus du tout la même façon de consommer, d'écouter de la musique qu'aujourd'hui, où on est un peu noyé tout le temps, avec beaucoup de facilité. À cette époque-là, quand on avait un disque, on l'usait, on l'écoutait, on le réécoutait. Ça nous durait un an, quoi. Voire plus, enfin même toute une vie, pour l'occurrence, hein. Donc il y avait Benefit of Mr. Cat qui était quand même mon morceau préféré. She's Leaving Home que j'aimais bien, mais qui me parlait pour les paroles, mais que je trouvais un peu suave. Et puis Lovely Rita Rita Made, ça. Mais pour moi c'était le rêve, ça me donnait envie de me droguer. C'était un disque qui me donnait envie de me droguer, exactement comme les Pink Floyd aussi. C'est des disques, je me disais, oh, qu'est-ce que ça doit être bien de se droguer en écoutant. Pour moi, c'était de la musique qui faisait planer, qui faisait... voilà, c'est vraiment ça pour moi. Puis la qualité de la musique, mais encore une fois, quand on n'a pas beaucoup d'expérience dans la musique et qu'on découvre ça, on n'a pas la conscience qu'on est en train de rentrer par la grande, grande porte de la musique, de la pop, quoi. Non, on prend ça tout à fait normalement. C'est comme si on découvre la musique classique avec, je sais pas moi, le concerto pour piano de Mozart. C'est magnifique. On se dit, oh bah c'est normal, oui. C'est qu'après, quand on découvre toute la médiocrité, on se dit, en fait, mais j'ai eu une chance incroyable de commencer mon éducation musicale et mon amour de la musique par ça, quoi. Parce que c'est une nourriture, c'est génial. Mais après, ça rend un peu difficile aussi. Je crois aussi que dans la façon de chanter de Lennon et de McCartney, où ils ont une espèce de puissance, de pureté, quoi. C'était pas des chanteurs techniques, des chanteurs de muscles, mais ils avaient une telle qualité d'interprétation, une telle justesse d'interprétation dans leurs mots, qu'à un moment donné, pareil, on se rend pas compte à ce moment-là que ça nous imprime, mais ils nous donnent une certaine forme de professionnalisme, de conscience de ça, malgré nous. Moi, ça a beaucoup travaillé sur mon imaginaire, sur mon inconscient, les Beatles. C'est après, quand on est dans la musique, là, on analyse un petit peu plus la musique, on fait plus attention. À ce moment-là, on prend tout comme ça et ça imprime un inconscient, quoi, une imaginaire, une façon de faire. Et on ne sait pas qu'on l'a, mais ils nous ont donné quelque chose. C'est des génies, mais on s'est toujours senti proche d'eux, proche de leur fantaisie, proche de leur façon de s'habiller. Après, moi, plus tard, je voulais m'habiller comme George Harrison. Je me souviens que la pochette de All Things Must Pass, par exemple, j'ai fait une photo un jour assis sur une bûche, un tronc d'arbre, avec des bottes, et comme lui, parce que je voulais... mon imaginaire a été formé par leur visuel, leur façon de bouger, leur façon d'être. C'est marquant. Ce sont des gens qui marquent.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Friends!
Oh, lend me your ear and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by a little help from my friends. You know I'm gonna try a little help from my friends. Oh.
Aurélien Dumont, compositeur. J'ai découvert l'album Sgt Pepper il y a 2 semaines, je crois. En fait, c'est la première chose que m'a fait cet album, c'était l'impression de découvrir quelque chose que je connaissais déjà, en fait, puisque première surprise entre guillemets, c'est que toutes les chansons je les connaissais par cœur finalement. Donc il y a déjà l'idée un peu du paradoxe qui me paraît assez importante, enfin en tout cas dans le cheminement de ma découverte de cet album. Paradoxe temporel qui est pour moi d'autant plus présente par le fait que j'ai eu mes premiers émois musicaux par la musique de rock progressif des années 70, notamment Pink Floyd, Yes, Genesis, enfin plutôt dans la première période. Et déjà là, c'est un peu bizarre parce que je suis né en 1980 et à l'époque où mes copains écoutaient Nirvana, moi j'écoutais plutôt ce genre de musique. Quand j'ai réécouté Sgt Pepper, donc j'ai réécouté plusieurs fois, j'avais l'impression presque d'avoir le Kojiki du rock progressif en fait. C'est-à-dire que le Kojiki, c'est ce texte japonais qui explique en fait la naissance des 8000 îles du Japon d'un point de vue mythologique. Et je trouve que avec Sgt Pepper, principalement sur le rock progressif, on a les germes de tout ce que cette musique-là allait devenir en fait. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup marqué parce que c'était encore une fois une musique qui m'est très très proche. Donc voilà, moi quand j'ai entendu ça, j'entendais Syd Barrett, j'entendais même Peter Gabriel à certains moments, Steve Hackett. Enfin, après évidemment, il y a tout ce travail de raffinement au niveau des orchestrations, des arrangements qui fait que c'est aussi une donnée qui est assez propre au rock progressif par rapport aux autres musiques populaires. Je trouve que c'est qu'on est toujours dans la redécouverte. On découvre toujours quelque chose parce que c'est très sophistiqué, parce qu'il y a une espèce d'intelligence de l'écriture, d'intelligence du rapport au son, qui là aussi m'a interpellé parce que je l'ai écouté peut-être une dizaine de fois depuis que je l'ai découvert. Et à chaque écoute, je découvre plein de choses. Donc c'est vraiment passionnant. J'essaye d'ancrer mon travail quelque part quand même dans la tradition, même si je fais vraiment de la musique contemporaine. Et j'utilise un concept que j'ai un peu décrit notamment dans ma thèse, d'OEM, objet esthétiquement modifié, qui sont évidemment une analogie directe aux OGM, mais je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans Sgt Pepper, c'est-à-dire qu'il y avait Stockhausen qui était sur la pochette, et c'est vrai que ça s'entend beaucoup sur le travail presque d'électronique qui a été rajouté, enfin sur les sons à l'envers, etc. Et je pense qu'il y a déjà de la modification esthétique aussi, c'est Sgt Pepper, comment une fanfare peut devenir tout d'un coup quelque chose d'extrêmement étrange, et puiser, enfin aller rechercher des décalages, et à travers ces décalages, explorer justement ces écarts entre des sources et sa modification. Donc ça peut être un élément qui effectivement sur lequel j'ai pu travailler dans ma musique. Et ça, c'est un peu ce qui m'avait manqué, moi, dans la culture dite populaire, en fait. Enfin, voilà, j'avais 14-15 ans, je connaissais rien à la musique classique et j'avais envie d'aller vers cette côté un peu expérimental, etc. Dans Sgt Pepper, je trouve, enfin, quand je parlais d'un peu de prémisse de rock progressif, ça pointe un danger, qui est le danger de l'attention esthétique, qui est quelque chose que j'adore, enfin, sur laquelle je travaille aussi beaucoup dans ma musique, hein, l'idée de savoir jusqu'où on peut aller dans la confrontation des univers. C'est vrai que Sgt Pepper, bon, bah, y a quand même un peu le côté bric-à-brac, même si tout. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est sur un flux continu alors qu'en fait, c'est hyper, hyper hétérogène, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose dans lequel certains groupes de rock progressif pour la suite n'auront pas forcément réussi à résoudre aussi bien que les Beatles à ce moment-là.
Musicien. Je suis né en 1963, donc j'ai connu les années 60. J'ai connu les Beatles parce que quand j'avais 5 ans déjà, on disait la coupe Beatles. Donc c'était déjà des institutions quand j'avais 5 ans. Et c'est ce qui fait que quand je me suis intéressé à la musique, finalement, les premiers disques que j'ai achetés n'étaient pas les disques des Beatles parce qu'on avait attendu beaucoup de tubes déjà à la radio, et donc je voulais rattraper d'autres choses. J'ai commencé par acheter des disques de Pink Floyd, de Soft Machine, de choses comme ça, mais les Beatles, c'était pour moi, c'était comme Mozart déjà. Et alors en plus, ce genre de musique, Moi, je voyais d'abord le côté très souriant des Beatles et j'aimais la musique plus sérieuse, le rock psychédélique. Et puis, c'est Daniel Miller, un jour, quand je travaillais avec Lightbar à Londres, il m'avait dit « Tu sais, vu ce que t'aimes et de ça, tu devrais écouter Pet Sounds des Beach Boys. » Et là, ça a été un émerveillement. Mais donc, pour revenir aux Beatles, du coup, ce choc que j'ai eu avec Pet Sounds, je l'ai moins eu avec Sgt Pepper. Et finalement, donc, c'est un disque qui m'a beaucoup moins marqué, y compris que certains autres disques des Beatles, parce que dans cette lutte, en plus, cette compétition géniale qu'il y a eu entre les Beach Boys et les Beatles, ben, à l'époque, c'était les Beatles qui avaient gagné la partie. Évidemment, moi, j'aimais les Outsiders. Mais en plus, comment dire, Pet Sounds des Beach Boys, c'est un disque vraiment qui me parle, mais parce qu'on a l'impression que c'est pas les Beach Boys, c'est Brian Wilson qui nous parle. Et il y a un truc très intime avec Pet Sounds que je sens moins avec Sgt Pepper, qui est un exercice formidable et qui est magistral. Mais pour moi, qui est plus un exercice de style psychédélique par rapport même à ce qu'ont fait les Beatles. Donc voilà, je suis absolument épaté par Sgt Pepper. Ce qui a fait toute la grâce des Beatles, c'est que c'était un groupe, mais il y a eu une espèce d'environnement miraculeux, parce qu'il y avait eux, il y avait George Martin, il y avait l'ingénieur du son et il y avait leur manager. Je pense que Brian Epstein est très important aussi. Je pense que dans le délitement des Beatles, on a souvent parlé des femmes, de Yoko Ono et tout ça, mais il me semble que la mort de Brian Epstein a beaucoup contribué à ce délitement et que jusque-là, les choses étaient beaucoup plus tenues.
Écouter aujourd'hui encore Sgt Pepper m'envoie immédiatement bouler 40 ans en arrière, quand on commence sérieusement à s'occuper des filles en les trimballant sur la mobylette, avec objectif numéro 1 de leur passer la main dans le jean pour voir comment ça marche, et que l'on se fout bien pas mal du baratin des profs, vu que, de toute façon, on va faire rockstar. La musique est toujours une question d'apprentissage. Un compagnon de route qui met de l'impression aux impressions, le stade ultime et le plus opérant de l'increvable Madeleine du petit Marcel. S'il était né en 1945, Proust n'aurait pas inventé la sonate de Vinteuil, mais un truc avec pédale wah-wah, cœur choup-choubidou, groove tchak-poum-poum-tchak, et les effets auraient été les mêmes. Si je parle de Proust, c'est qu'au fond, toute cette histoire n'est qu'une recherche du temps perdu. Sgt Pepper, suite, par Jean-Michel Espitalier, avec Philippe Barbeau, Bertrand Burgala, Gilles Kaplan, Barbara Carlotti, Aurélien Dumont, Jean-Michel Espitalier, Camille Laurence, Bertrand Leclerc, Olivier Mélano, Jean-Christophe Menu, Jean-Marc Montera, Jean-Christophe Normand, Jean Rousseau, Peter Sandy. Extrait de The Beatles Anthology, lu par Denis Verbeselt, Haute Fidélité de Nick Hornby, lu par Nathalie Salle, Syd Barrett, Le Rock et autres trucs de Jean-Michel Espitalier.
Il y a peut-être quelque chose d'un peu opératif dans Sgt Pepper.
Ça m'a ouvert aussi à une forme de psychédélisme anglais qui, à mon avis, est très différent du psychédélisme américain. Le psychédélisme anglais, c'est beaucoup plus, pour aller vite, Alice au Pays des Merveilles.
Il y a des choses comme ça qui sont très marquantes pour moi, autant que l'Alexandrin de Racine.
McCartney, décaler les fondamentales de la basse par rapport aux accords. Si un accord est en do, au lieu de mettre la basse en do, il allait la faire en sol, par exemple.
C'est aussi le triomphe d'une entrée de toute la scène pop dans une forme de marketing qui est révolutionnée à cet instant-là.
Ce qui était génial, là j'en ai pleuré. Je suis allée voir Paul McCartney il y a 2 ans au Stade de France. C'était magnifique. Enfin bon. Et il a joué Benefit of Mr. Kite.
Prise de son, Arthur Gerbeau, Pascal Bénard, Philippe Mercher.
Mixage, Bernard Laniel, Pascal Bénard. Réalisation, Nathalie Salle.
Coordination, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko. Création en air, 2017.
Cette émission est disponible en podcast sur le site de Création On Air. Demain à 23h, les années Yuri Gagarine, côté russe et côté français, par Marie Chartron et Nathalie Battus.